45 films ont dépassé le million d'entrées en France en 2023. Appréciés ou non, ces films entraînent popularité, débats et discussions. Mais parmi les 700 environ, évidemment, avant que Jérémy ou Julien me gronde, sortis par an, de nombreuses pépites n'atteignent pas le stade symbolique des 100 000 entrées. Alors, est-ce que le nombre d'entrées en salle définit réellement la qualité d'un film ? Comment est-ce que les films à faible audience trouvent-ils leur public ? Bienvenue dans C'était mon film, pour discuter des films à moins de 100 000 entrées. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans C'était mon film. Aujourd'hui, je suis très très bien entourée puisque pour la première fois, Jérémy est avec nous. Salut Jérémy.
Salut Charlotte, salut à tous.
Et Arthur Pavlovski est de retour. Salut Arthur.
Bonjour à tous.
Donc aujourd'hui, on a décidé de parler des films qui ont fait moins de 100 000 entrées en sortant en salle. Voilà, qu'est-ce que pour vous, un film à moins de 100 000 entrées, est-ce que c'est un film justement qui n'est pas qualitatif? Est-ce que c'est un film qui est sorti au mauvais moment? Est-ce que c'est un film sur lequel le réalisateur n'avait pas particulièrement de notoriété à l'époque et du coup n'a pas ramené son public? Voilà, qu'est-ce que c'est pour vous un film à moins de 100 000 entrées?
Je dirais, pour être tout à fait politique, que c'est un mélange de tout ça, Charlotte. Mais pour moi, en tout cas, le film à 100 000 entrées, bon, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai un peu moins de temps pour aller voir des films qui font moins de 100 000 entrées, malheureusement, parce que je vais voir moins de films. Mais quand j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma dans ma grande jeunesse, c'était surtout la découverte, souvent, d'un auteur ou d'une auteur. Parce que c'était, pour moi, ça reste associé aux premières œuvres,
okay, donc
la plupart du temps.
Presque le manque de notoriété te poussait finalement à aller en salle pour voir toi le film.
Exactement, et notamment parce que pour moi, la presse a vraiment un rôle très important, un rôle prescripteur là-dessus.
Moi, je suis plutôt d'accord avec Jérémy. Jérémy, tu le disais, c'est un mélange des trois. Moi, je suis tout à fait d'accord, que ce soit le manque de notoriété ou alors des films qui n'ont malheureusement pas rencontré leur public malgré une très bonne presse, parce qu'on le voit. C'est vrai que nous, on a la chance d'habiter, en tout cas à Paris ou en région parisienne. C'est là où la plupart de ces petites sorties font leurs entrées, parce qu'elles ont la chance d'être programmées dans des salles un peu plus longtemps que dans certaines autres villes, ou en tout cas le public est plus à même de venir voir ces films ici.
Donc, et parce qu'ils durent plus longtemps aussi. Comme il y a plein de salles de continuation à Paris qu'il n'y a pas forcément dans les autres grandes villes de France, ça permet d'aller grappiller centaines après centaines de spectateurs et d'atteindre déjà la barre symbolique des 10 000. Ensuite, il y a la barre symbolique des 30, des 50, 70 et enfin les 100 000 entrées. Et ça sera peut-être pour le second film, on verra.
Même en termes de promotion, on le voit, c'est des films qui sont bien plus présents dans le paysage publicitaire, que ce soit dans les rues, dans les magazines, qu'on trouvera... je pense dans cette ville que qu'ailleurs.
Les distributeurs en fait ils ont des pas toujours de grosses enveloppes, ils concentrent évidemment leur effort sur la ville où le cinéma sera en général le plus programmé et souvent après ça sera l'objet peut-être d'un autre podcast avec Julien Bernard qui pourra nous en dire plus, mais c'est vrai que sur les plans de sortie de ces films là en général c'est beaucoup de copies à Paris et puis quelques autres copies dans les salles arrêt essai de France mais
de manière décalée aussi.
Exactement
Donc pour vous quand même, un film à moins de 100 000 entrées s'adresse forcément à des cinéphiles?
Non, je pense pas. Parce qu'on a quand même vu, enfin, voilà, on le dit, on le répète, le cinéma est avant tout une industrie de prototypes et il y a des films américains aussi.
Ouais. On en trouve de tous les genres. On l'a vu quand je regardais la liste des films parce qu'au moment de me décider, on trouvait des films de science-fiction, on trouvait des films de toutes les nationalités, des comédies, etc.
Non, ce qui est vrai, c'est que des films à moins de 100 000 entrées sortis par des majors américaines, ça se fait déjà un peu plus rare.
Mais il y en a.
Mais il y en a aussi, mais c'est quand même un peu plus rare. Ouais. Souvent, c'est effectivement des films français sortis par des petites structures. Alors quand je dis petites structures, c'est-à-dire des structures de distribution qui sortent peu de films, qui n'ont pas forcément de gros budgets pour les frais marketing, ou alors des cinémas de pays qui ne sont pas encore totalement reconnus par le public français.
Ouais, mais toi, tout à l'heure, tu disais que ce qui t'intéressait dans les films à moins de 100 000 entrées, effectivement, c'était les notes presse. Mais du coup, c'est vrai que quand c'est 100 000 entrées, globalement, est-ce qu'à chaque fois, la com ne va pas avec? C'est-à-dire les opérations marketing ne vont pas dans le sens, entre guillemets, de faire plus d'entrées, selon toi?
Bah, Les opérations marketing, là-dessus, en fait, faudrait voir vraiment sur chaque film, parce que après, c'est toujours le sujet. Est-ce que c'est un film extrêmement, extrêmement pointu, et auquel cas, voilà, c'est un public très spécifique à aller chercher. Et là, c'est du travail sur mesure, et c'est peut-être pas forcément une question d'argent, mais peut-être une question de temps aussi, mm-hmm. par rapport aux distributeurs de stratégie. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que plus le film va être difficile dans sa cible, dans son positionnement, plus évidemment, si on n'a pas beaucoup d'argent, ça va être quand même très très compliqué à un moment. Si tu peux pas prendre, j'en sais un, des colonnes dans une ville comme Paris, où clairement la majorité de tes salles vont être, bah, tu te prives déjà quand même d'une exposition pour aller toucher quand même un public assez large. Bon, tu me diras, il y a quand même une grosse déperdition, mais il faut aussi de l'argent de temps en temps pour faire des partenariats avec la presse spécialisée. Tu peux pas, tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir un partenariat avec France Inter qui permet voilà, d'avoir un relais extrêmement massif auprès d'une cible affinitaire. Toujours essayer de trouver l'équilibre. C'est pas forcément lié. Les deux sont pas forcément interdépendants, mais tu pourras jamais, enfin, sauf cas exceptionnel, mais ça reste le nerf de la guerre. Il faut quand même rappeler que la distribution, c'est avant tout la partie peut-être un peu moins glorieuse du cinéma, mais c'est la partie, on va dire, purement business. Certes, sur des films art et essai, on défend des œuvres, et donc il y a un point de vue artistique très fort, mais mettre en place un plan de promotion, enfin faire du marketing, ça reste d'une certaine manière la partie business, et donc très mercantile du métier. Et attirer les spectateurs, on les attire par évidemment par la presse spécialisée, mais aussi par des actions de promotion pure, et on peut pas les faire sans argent, on peut pas n'avoir que du gratuit.
C'est vrai, comme tu l'as dit, malheureusement, c'est que ça reste aussi très cher de sortir un film, que ce soit, et ça de toute taille, que ce soit un blockbuster ou un petit film justement à réessayer qui va peut-être pas rencontrer son public, c'est toujours des frais.
Il y a toujours des frais quand même minimum, et c'est plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros quand on est sur des gros films à réessayer.
Oui, effectivement. Mais c'est vrai que les films à 100 000 entrées, même comme tu me disais, c'est pas, peut-être pas interdépendant toujours avec l'ensemble du plan marketing, mais c'est vrai que forcément, un film à 100 000 entrées, il a moins communiqué de manière très large sur le film. Et
exactement.
Du coup, il aurait peut-être pu attirer des gens qu'il n'a pas attirés parce que le plan com était plus petit.
Okay. Et ça, c'est un point de vue de ciblage du district.
Exactement.
Absolument. Ok, et ben on va passer sur le premier film, qui est le choix d'Arthur, si je ne me trompe pas, qui est Rushmore. Arthur, est-ce que c'est bien ça?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai choisi un film que je n'ai pas eu la chance de découvrir en salle et que j'ai découvert très récemment. Il s'agit du deuxième film de Wes Anderson, qui avait réalisé à l'époque, à l'occasion de sa sortie française, à l'époque réalisé par GBVI, donc le groupement Gaumont Buena Vista, qui était le groupement qui sortait les films de la Major française Gaumont, mais de Disney également. Le film est sorti en France en 1999, le 17 novembre pour être précis, sur une vingtaine de copies, et il n'avait réalisé que 4500 entrées.
Tu vois, il a fait 4000, parce qu'au début du podcast, tu m'as dit, mais n'importe quoi, il a fait au moins 30 000 entrées, il a fait 4562 entrées.
Ça montre que même Wes Anderson a démarré tout bas.
Ouais, c'est dingue.
Rendez-vous compte. Bah après, combien de copies tu dis?
Enfin, on peut presque parler d'une sortie technique.
Ouais, sortie technique à l'époque.
Oui, et mise en contexte avec ce qu'est devenu Wes Anderson aujourd'hui, c'est très étonnant de voir un de ses films, en tout cas qui était distribué sous forme d'une sortie technique, on peut le dire, et on peut le voir. C'est que parce qu'après on parlera de l'aspect qualitatif du film, moi je trouve que c'est un de ses meilleurs. Ce que j'ai découvert vraiment sur le tard.
Tu l'as découvert comment ?
Il a posé les bases.
Il est sur Disney+.
Et tu t'étais dit, tiens, un film de Wes Anderson que j'ai pas vu.
Parce qu'il y a le dernier qui est sorti cette année. Je m'étais dit, je vais me refaire toute la filmographie de Wes Anderson parce qu'il y en a beaucoup que j'ai jamais vu. Et celui-là, ça a été un vrai coup de cœur, comme quoi son esthétisme si particulier est déjà présent dans cette... qui justement, je pense, a rameuté en tout cas toute une fanbase, est-ce qu'on peut parler de ça? Des personnes qui aiment son cinéma viennent tout en sachant ce qu'ils vont voir, parce que c'est un cinéma très particulier, Wes Anderson.
Pas trop dans Rushmore, je trouve.
Oui, mais on le retrouve quand même.
Ah ouais, tu trouves?
Oh bah, complètement, Charlotte, enfin.
Mais moi, j'ai pas tant de trucs, je vais vous expliquer après.
Premier point de débat.
Le symétrisme des plans et tout. Moi,
je vois ce que tu veux.
Bah, c'est le film où il pose toutes ses bases pour moi.
Ouais. C'est celui qui.
Ça commence sur les chevaux de roue.
Non, non,
est-ce que tu l'as vu, Charlotte?
Bah, non, mais.
Est-ce que tu l'as vu en salle surtout?
Mais pas du tout. Mais moi, je l'ai vu en fait dans le cadre du podcast, et j'avoue, j'ai été mauvaise élève, mais je l'ai regardé, et j'ai pas du tout regardé le réel. j'ai regardé le film, je me suis dit, tiens, je sais pas ce que c'est. Et j'étais là, ah ouais. Oh, c'est marrant. Et ça m'a vraiment étonnée. Je me suis dit, c'est marrant que Arthur nous propose un truc comme ça, genre une sorte de comédie américaine. Enfin, un truc un peu comédie dramatique, on s'entend.
Tu t'es pas dit, quand t'as vu Jason Schwartzman, Bill Murray, que t'as entendu les Kings et d'autres
premier
morceaux.
Premier rôle de Jason Schwartzman.
Et d'autres morceaux rock des années 60, tu t'es pas dit, ça sent quand même le Wes Anderson.
Mais dans ma tête, pas du tout. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait.
Au début du film, il était Wes Anderson en plus.
Je sais pas, j'étais à l'ouest, quoi. Et en fait, c'est à la fin du film que j'ai vu. C'est quand ça s'est fini et j'ai vu Wes Anderson. Et c'était trop marrant parce que 5 minutes avant, j'avais dit, ah, oh, je le trouve vraiment cool ce film. Et après, j'ai vu Wes Anderson, j'ai fait, oh, trop drôle et tout. J'avais pas du tout capté. Et c'est vrai que non, j'ai trouvé ça hyper chouette. Et effectivement, oui, il y a du Wes Anderson dedans, mais beaucoup moins poussé que ça a été le cas dans ses autres films, quoi.
Ah oui, là pour le coup, bah, il était tout jeune à l'époque, hein, 1999. C'est son second long métrage.
Ouais, juste après Bottle Rocket, le premier qui n'est jamais sorti.
Ouais, qui a été distribué à l'international. Donc on sent un jeune cinéaste en devenir, en tout cas. Mais oui. En tout cas, les bases de ce que deviendra son cinéma sont bien présentes dans ce film.
Honnêtement, oui, je vois un peu le truc. Mais c'est vrai que pour moi, Wes Anderson, c'est aussi la photo. Et c'est vrai que là, il n'y a pas ça, quoi.
Bah, moi, je trouve qu'il y a des compositions symétriques, il y a des couleurs vives.
Ça m'a pas marqué autant que les autres Wes Anderson.
Bah parce qu'il y a peut-être, comme il avait peut-être moins de budget, ça fourmille peut-être moins de détails, mais c'est vrai que sur le côté, en tout cas sur le côté plastique, c'est quand même assez. Enfin, pour moi, hein, j'ai vraiment ressenti exactement comme si c'était le premier jet de toute son œuvre à venir. Mm-hmm. Et puis, quand même très difficile de ne pas penser à Wes Anderson jeune quand on regarde le protagoniste, donc Max Fisher, campé par Jason Schwartzman, un espèce de petit génie qui veut faire plein de choses et en même temps qui essaie de saboter lui-même. Donc heureusement, Wes Anderson ne s'est pas saboté lui-même dans sa carrière par la suite, mais on sent, enfin c'est un ressenti pur, hein, j'ai pas lu d'interview de lui par rapport à ce sujet, mais comme s'il se mettait un petit peu en scène. Et ce que j'aime bien, moi ce qui m'a beaucoup touché, ce que j'adore chez Wes Anderson et qu'on voit finalement dans tous ses films, c'est qu'il est jamais, avare sur le trait parfois très antipathique de ses personnages. Il arrive toujours à les rendre à la fois un peu détestable selon les films, un peu détestable et finalement quand même très attachant, parce que ce personnage de Max Fisher, il a quand même des comportements de temps en temps de petits gamins à qui on a envie de foutre trois claques. D'ailleurs, je crois que même son professeur, joué par Olivia...
Par Brian Cox, son proviseur aussi.
Non, sa professeure, celle avec qui il veut coucher, je crois, dont il est amoureux.
Celle dont il est amoureux.
Oui. Exactement. Ouais. Olivia, je ne sais plus comment elle s'appelle, Olivia... Tac. Une actrice britannique qui lui fout même à un moment une gifle, je crois. Ouais. Si je me souviens bien.
Olivia Williams,
ouais. Super.
Mais comment t'as découvert le film ?
Alors moi, c'est très simple. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais parce qu'il passe quand même pas très souvent au cinéma. Je crois même pas si un DCP...
Tu l'as vu en salle, du coup ?
Non, je ne l'ai pas vu en salle. Je l'ai vu pendant le Covid, donc une époque où on avait plein de choses à faire.
Tu faisais les rétrospectives.
Exactement. J'avais réussi à me faire offrir pour les fêtes le coffret Wes Anderson et j'ai refait toute la filmographie de Wes Anderson, plus les films manquants, et j'ai commencé justement par le début. Donc d'abord Bottle Rocket et ensuite Rushmore, et j'avais déjà les films suivants de Wes Anderson bien en tête, et c'est pour ça que ça m'a quand même vachement sauté aux yeux de voir comme ça qu'il avait réussi à disséminer tel un peintre déjà des motifs qui allaient le suivre,
qui allait l'accompagner
jusqu'à aujourd'hui.
Et tu as tout à fait raison en disant que le personnage principal est inspiré de la personne de Wes Anderson, parce qu'il est inspiré des deux scénaristes. Et est-ce que tu sais avec qui il l'a écrit?
Avec Roman Coppola déjà.
Avec Owen Wilson.
Ah bah oui, voilà. Mais il n'y avait pas Roman Coppola aussi déjà à l'époque, non? Donc c'était Owen Wilson.
Et question Arthur, pourquoi est-ce que tu as choisi ce film? Qu'est-ce qui t'a touché dans ce film?
C'est ça, vraiment sa découverte, et je me rappelle vraiment de la bonne surprise que ça a été, parce que je me l'étais lancé vraiment un petit peu en me disant, bon, j'ai jamais entendu parler de ce film, et comme je l'ai expliqué, je me faisais aussi la rétrospective en amont de la sortie de Asteroid City. Et je me suis dit, mais en fait, c'est super bien, quoi. J'étais super content de l'avoir découvert, et mon grand regret, c'est de ne pas l'avoir vu en salle.
Okay.
Ça aurait été compliqué quand même.
Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, DCP, ça va être compliqué à trouver aussi.
Peut-être, faudra demander à Disney, mais ouais. À quand une rétrospective officielle, peut-être à la Cinémathèque, un jour.
Oui, oui, sûrement.
Je pense que ça devrait pas tarder quand même.
Et donc, ce film, vous avez quand même tous les deux plutôt aimé.
Bah, moi, je suis un très très bon client de Wes Anderson et.
Figure-toi qu'il est programmé au Christine Cinéma Club actuellement.
Et voilà.
Allez, seconde chance ou première chance au cinéma. Mais moi, j'adore Wes Anderson. Je pense que j'aime, on va dire, tous ses films, même s'il y en a que je trouve plus faibles que d'autres. Mais ça, c'est très personnel. Mais moi,
Voilà, je te le disais en introduction, film de 100 000 entrées, souvent pour moi, en tout cas dans mes découvertes, c'est associé aux premières ou aux secondes œuvres. Et découvrir une œuvre de jeunesse après avoir vu tous les grands films de ce réalisateur, je trouve qu'il y a quelque chose de finalement d'assez touchant parce que on découvre pas cette œuvre-là de la même manière que on découvre un cinéaste dont on n'a jamais entendu parler, ce qui sera le cas quand je parlerai de Mon Choix tout à l'heure.
Ah oui, exactement.
Et bonne nouvelle parce que pour lui, après Rushmore, du coup, et le semi-échec, l'échec que ça a été en salle, son film suivant, La Fabrique des Dunes, arrive à 300 000 entrées.
Arrête de tricher parce que j'ai des questions sur ça.
Et d'ailleurs, je me souviens de Tenenbaum, quand c'est sorti, les affiches étaient... Alors Tenenbaum, je crois que je devais avoir 12-13 ans, mais elles étaient partout, partout dans Paris. Je me souviens que la photo avec ce cast, finalement, c'était... Rose. C'était, ouais, exactement. Et toute la photo de classe, la photo de famille, c'était... j'avais l'impression que c'était la comédie à ne pas louper. Et c'est là où c'est très fort, c'est que Wes Anderson, tant qu'on n'a pas vu ses films et qu'on voit les visuels, on a toujours l'impression que ce sont des films grandiloquents, très drôles, des grandes comédies populaires. Parce qu'à l'époque, Ben Stiller, il faut quand même le rappeler, c'était l'acteur de comédie populaire.
Incontournable. Ben Stiller, Owen Wilson,
exactement.
Jenny Ackman.
Et quand on découvre le cinéma de Wes Anderson, on se rend compte que c'est bien plus mélancolique, bien plus douloureux pour les personnages que ça en a l'air sur les affiches.
C'est clair. Bon, quelques petites questions par rapport à ce film.
Ah, les questions.
Selon vous, quel est le plus gros succès de Bill Murray ?
SOS Fantôme.
Je me suis dit ça au début, en fait, non. Ça m'a un peu étonné.
Oui. Attends. C'est pas un film où il a le premier rôle, quand même. Enfin,
non, pas particulièrement.
C'est pas obligatoire. Journée sans fin.
Non.
Un jour sans fin.
Ouais, moi, j'aurais dit Ghostbusters aussi.
C'est Tootsie, un film de Sidney Pollack qui avait fait 3 840 083 entrées avec Dustin Hoffman.
Évidemment, grand film.
Voilà. Et autre question sur Bill Murray et Wes Anderson. Dans combien de films de Wes Anderson a joué Bill Murray ?
Bah, tu nous laisses compter.
Compte, franchement. Mais
sauf Bottle Rocket, moi je dirais.
Sachez qu'il y a deux réponses qui sont acceptées.
Vous allez comprendre pourquoi. Famille Tenenbaum ?
Oui.
Je suis pas sûr.
Ah mince, putain, je commence à avoir des doutes.
Je suis pas sûr.
Il faut dire un chiffre, je vous dirai après.
Mais déjà, il n'est pas dans Asteroid City.
Il est dans. Tout sauf Bottle Rocket et Asteroid City.
Non, mais ça fait combien ?
Ah, c'est ça la question.
Bah, donc ça fait.
Attends. Donc 8.
Exactement.
Oui,
très fort en vrai.
Il a pas fait tant de films que ça, donc c'est facile.
Non, c'est vrai. Et il a effectivement pas joué dans Bottle Rocket. Et après, bon, il y en a deux où c'était juste sa voix. Donc si vous me comptiez pas et vous...
Ah bah si.
C'est le casting.
Oui. Ah bah... Non mais d'accord. Mais si vous parliez que de.
Ah non, mais dans
vous
les...
aviez le droit aussi.
Les films d'animation de Wes Anderson, je suis désolé, sont indissociables de leur casting voix.
Ouais.
Exactement.
On aime les VOST.
Pour parler d'un autre film qui a fait effectivement le plus d'entrées de notre top. Choisi ce soir, c'est mon film qui est How to Have Sex, qui a fait 70 919 entrées, donc c'est pas non plus un score incroyable, mais c'est quand même très très bien.
La grosse sensation du dernier festival de Cannes. Notamment.
Exactement, un certain regard, évidemment. Alors moi ce film, ça a été quelque chose parce que j'en avais entendu parler à l'époque de Cannes, évidemment. Plein de gens m'en avaient reparlé après, et j'attendais que ça, et quand il est sorti, je suis allée le voir au Vépler, avec ma sœur, et c'était quelque chose, vraiment. Et c'est dingue, parce que moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et que ce soit effectivement la photo, les sensations, le jeu d'acteur, et le fait que vraiment, je trouve la réal dingue. Et quand on ressort de là, moi, j'avais qu'une envie, c'était évidemment d'aller faire la fête, d'avoir 15 ans à nouveau, et de me dire, waouh, c'est ouf, en fait, parce que c'est tellement bien peint sur l'adolescence, sur la découverte de la fête. Je trouve vraiment que c'est tellement réaliste et c'est rare que ce soit aussi réaliste. Enfin, je sais pas, un peu à la Abdelatif Kechiche, quoi. Enfin, il y a un truc vraiment que j'ai trop aimé. Après, l'histoire effectivement du viol est hyper violente et c'est hyper dur. Mais je sais pas, ça retourne plein de choses. C'est vraiment très violent sur plein de trucs. Mais quand on en ressort, on n'en ressort pas indemne, je trouve. Enfin, moi, j'ai vraiment aimé. Jérémy, je crois que t'as un peu moins aimé.
Oui. Désolé Charlotte.
Bah non, mais pas désolé, explique-moi pourquoi.
Mais alors déjà, je suis désolé, je suis obligé de rebondir sur ce que tu viens de dire, étant un grand admirateur du cinéma, et je ne précise pas de la personne d'Abdelatif Kechiche, la grande différence pour moi si on doit, devait comparer sur ce point, c'est la durée. Parce que chez Abdelatif Kechiche, il prend une scène, il va essayer de l'étirer jusqu'à l'épuisement. Mais dans ce film, il y a la seule scène dont moi je me souviens, finalement, c'est la scène pivot. La scène du viol qui, est donc, qui pose tout le problème du consentement dans Sim et, qui est quand même assez insoutenable, on peut le dire. Moi, déjà, j'aurais voulu que cette scène, finalement, elle apparaisse beaucoup plus tôt. Puisque le ressenti que j'ai du... Enfin, le souvenir que j'ai du film, que j'ai découvert peu de temps après sa sortie, au MK2 Quai de Loire, pour être précis, c'est que il y avait une mise en place que j'ai trouvée inutilement très longue. Et une fois que j'ai compris finalement, c'est pour moi c'est un peu la limite des films avec qui comportent dans leur titre. Bon, même si là le titre est un peu ironique, il y a un programme dans ce film. On sait clairement que c'est un film. On connaît plus ou moins le sujet. Le titre est quand même assez équivoque, même s'il joue un petit peu sur cette ambivalence, puisque elle va pas vraiment apprendre à faire l'amour. Elle va plutôt malheureusement le subir. Et je le répète, dans une scène qui pour moi m'a beaucoup marqué, qui pour moi est vraiment le point fort du film. Mais en tant que spectateur, on s'y attend. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, moi, dans mon cerveau de spectateur, c'est que pendant toute la première partie, qui est quand même, je le répète, pour moi assez longue, je crois que c'est 45-50 minutes, on attend. Et qu'est-ce qu'on voit? Pour moi, on voit quand même, finalement, moi, j'ai vu quand même avant tout un canevas assez, assez banal. Le groupe de filles, le groupe de copains, la fête, puis encore la fête, puis encore la fête. Mais une fois de plus, pas avec le point de vue, par exemple, d'un Abdelatif Kechiche qui va essayer de trouver des rapports entre les personnes, justement, par la durée. Là, j'avais l'impression d'une succession de tableaux sans grand intérêt, si ce n'est que de poser des jalons. Et une fois que la scène est arrivée, ben moi, en fait, cette scène, j'aurais préféré qu'elle arrive finalement au bout de 20 minutes et qu'on suit justement l'après, comment cette fille va pouvoir en parler à ses amis. Et une fois de plus, moi aussi, ce que je trouve la limite, c'est que, évidemment, il y a l'effroi, mais... Et je pense que c'est malheureusement aussi fait que, si j'ai bien compris, c'est inspiré de son expérience, de sa triste expérience réelle à cette réalisatrice. On peut aussi se dire, mais là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un geste de soulèvement? Est-ce qu'elle ne va pas en parler à ses amis? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut être un petit peu plus dit que simplement intériorisé? Et ce que j'avais trouvé dommage aussi, c'est toute la très belle relation qu'il y avait avec l'ami du fautif, du violeur, comme on dit. C'est toute cette relation, finalement, pour moi, ça aurait été ça, le film que j'aurais voulu voir. Comment elle arrive, mine de rien, à essayer d'accepter, tenter de se reconstruire avec un homme, là où on pourrait très bien se dire, finalement, quelle est la vision de l'homme qu'elle va avoir après ce geste extrêmement regrettable.
Non, mais ton point de vue est hyper, hyper intéressant en vrai là-dessus. Je comprends grave. Mais c'est vrai que quand j'y suis allée, bizarrement, moi, je ne me suis pas du tout... Je sais pas comment expliquer. En fait, les avis que j'avais eus, moi, pour moi, je savais même pas que ça parlait d'un viol à l'époque. C'est-à-dire que j'y suis vraiment allée. Moi, j'aime bien aller voir les films sans avoir rien vu avant. Et effectivement, les gens m'en avaient parlé en disant que c'était très bien, etc. Et donc, je me suis dit, bon, je vais y aller. Mais dans le How to Have Sex, pour moi, c'était aussi comment, d'une certaine manière, on passe de l'adolescence à l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe? Les premières vacances, la première... presque bride d'indépendance qu'on profite. Et ça, par contre, je l'ai vachement ressenti.
C'est vrai que tu le ressens un petit peu dans sa relation avec la mère, notamment.
Oui.
La mère, les études.
Exactement, ça, bien sûr. Fait qu'elle assume pas trop, que son parcours difficile, là, qu'elle a pas eu l'école qu'elle voulait, etc. Ouais, mais amitiés, là, la toxicité qu'ils peuvent avoir à cet âge-là, la fête, et le fait de, ok, on découvre la fête, mais du coup, on va pas la découvrir à moitié, on va la découvrir complètement, et on va faire n'importe quoi, et on va adorer sortir tous les soirs.
Mais est-ce que ce n'importe quoi, on le ressent vraiment? Parce que finalement...
Moi, je l'ai grave ressenti.
Ah ouais?
Ah ouais, moi, de dingue. Et vraiment, je me suis dit... Vraiment...
À part la scène, vraiment, avec l'espèce de concours, je crois, de fellation sur scène, qui est vraiment, pareil, quelque chose d'assez insoutenable. De toute façon, c'est lié à ce bloc-là. Finalement, qu'est-ce qu'on voit vraiment de la fête? C'est aussi ça, c'est que, dans mes souvenirs, il n'y a pas vraiment de grande scène de fête. Quand je dis grande, ça ne veut pas dire quelque chose de forcément de majestueux. Mais une fois de plus, on en revient à ce rapport au temps. À un moment, il y a une scène, enfin, la fête, elle est présente, bah, quel est le temps vraiment qu'elle va accorder à cette fête? Bon, je ne parle pas de Mektoub, le deuxième, là, qui apparemment, parce qu'on est très peu...
Sortira
très peu,
peut-être un jour.
Qu'on est très peu de personnes, enfin, les gens sont peu nombreux à l'avoir vu, qui apparemment...
Mektoub, I Love.
Oui, mais le deuxième qui se passe apparemment pendant trois heures dans une boîte de nuit. Mais moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est quelles sont vraiment les interactions qui se passent pendant peut-être une soirée, au lieu d'avoir plusieurs soirées qui se ressemblent, mais dans lesquelles, finalement, on les voit que boire des coups. C'est comme s'il y avait plusieurs vignettes qui se succédaient, mais sans qu'elle décide vraiment d'aller au cœur même de ce que c'était, ouais, de ce que c'était qu'une fête.
En vrai, je comprends trop ce que tu veux dire. Et en même temps, pour moi, à cet âge-là, c'est vraiment, ben, chaque seconde est une fête. Et en fait, ça va être aussi, tu vois, la découverte de... On dort pas de la nuit, on dort, on est à trois dans une chambre d'hôtel à un, et on rentre, on a des frites, on est complètement ivre et on tombe par terre.
Ouais,
moi, franchement, ça, le côté festif, tu vois, il y a des moments où ils sont en boîte de nuit au début, où elles boivent, elles vomissent, elles sont là. Et en fait, c'est la découverte de
tout. Oui, c'est ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vu plein de fois quand même.
Alors oui, bien sûr, mais là, je l'ai trouvé réalisé d'une autre manière, de quelque chose de... Tu vois, on voit aussi, tu vois, c'est con, mais on voit le après, elle sort de la boîte, elle rentre pour elle, elle marche jusqu'à chez elle. Le matin, elle se lève, elle s'en va bien, elle va sur la terrasse, l'espèce de drague, la jalousie, toutes ces choses-là, en fait, qui sont... oui, effectivement, dans mon adolescence, je pouvais me permettre des choses. Là, j'ai l'impression et l'illusion d'être adulte pendant une semaine de vacances avec mes potes. Je suis trop heureuse d'être là et voilà comment ça se passe. Franchement, moi, j'ai trouvé ça tellement réaliste. Ça m'a paru fou d'avoir autant de réalisme. Après, effectivement, si j'étais là dans l'attente de parler de ce sujet très dur qui était le viol, le consentement, etc., je comprends ton désarroi de se dire, bah, en fait... si on vient me dire que je vais voir un film difficile sur ce sujet-là, bah, j'ai envie de voir le après, comment
en fait,
se
voilà,
construit.
C'est pour moi, ça, je l'entends. C'est ça pour moi qui est vraiment l'intérêt du film, et c'est ce que voilà, c'est ce programme que j'aurais voulu voir peut-être un peu plus, un peu mieux traité.
Là, je vous écoute parler. Arthur ne l'a
différence... pas vu, c'est pour ça qu'il se permet pas trop de parler.
Mais il va trancher.
Ouais, je trouve ça intéressant, la différence de votre point de vue, parce que le film, donc, du coup, a été récompensé à un certain regard. On se rappelle tous de l'arrivée de Molly Manning Walker sur scène en tenue de sport. C'était très drôle.
En train de courir.
En train de courir. Et du coup, le film est sorti quand même le 15 novembre dernier. Toi, Charlotte, est-ce que tu as suivi cette sortie? Est-ce que tu l'attendais vraiment? À partir de quand tu as commencé à te... Parce qu'il y a quand même plusieurs mois qui passent, entre guillemets, te réintéresser à la sortie du film et à décider d'aller le voir?
Bah, en fait, moi, c'est bête, mais de tout Cannes, c'était le film que je voulais le plus voir.
Depuis Cannes, tu voulais le voir?
Évidemment. Ouais. Donc, du coup, en fait, depuis Cannes, je voulais le voir. L'ensemble des bruits que j'entendais autour me confirmait cette envie-là. Donc évidemment que j'ai attendu cette sortie, et j'ai vraiment vraiment attendu le fait que le film sorte en salle.
Bon, ça valide pas trop ma théorie, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est la stratégie de sortie de Condor, qui a été justement démarcher des blogueurs, des influenceurs cinéma qui s'adressent, eux, que ce soit sur TikTok ou des plateformes comme ça, qui s'adressent, eux, à une cible entre guillemets jeune. Et justement, pour les pousser à aller voir le film.
T'allais dire que j'avais été influencé par TikTok?
Bah,
ah ouais, il allait dire bah, ça
reste un média comme un autre.
Hein. Oui, ça reste
oui,
un média comme un autre.
Il allait le dire, quoi.
Mais du coup, je trouve ça intéressant, ce positionnement. Et je pense que le film a beaucoup plu. En tout cas, quand on regarde un petit peu les posts de Condor avec les retours spectateurs des avant-premières qu'ils avaient réalisées, c'est globalement des jeunes personnes qu'ils avaient conviées ou qu'ils ont été interrogées à la sortie des projections. Et on voit que le film a beaucoup plu à cette génération.
Parce que c'est hyper représentatif. Sur ça, par contre, c'est très réaliste. Donc ça, je l'entends et je suis d'accord. Après, c'est vrai que d'un point de vue de Jérémy qui se dit, bah voilà, le film a eu un prix, un certain regard, donc ça doit être... Si ça parle de viol, ça doit être vraiment très dur, et on va voir un peu le après, la reconstruction et tout. Moi, je comprends qu'on soit déçu, parce qu'on se dit, bah, en fait, tu passes à côté de ton sujet, quoi.
Non, alors, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit dur, puisque là, après, elle a choisi, dans la représentation du viol, elle a choisi de le montrer. Donc, moi, qu'on le montre ou qu'on ne le montre pas, c'est pas ça qui va faire que je vais m'intéresser au film. Par contre, à partir du moment où je comprends, après une très longue mise en place, que finalement, le cœur de son film, c'est ça, c'est à partir de ce moment-là que c'est potentiellement un autre film que j'attendais. Voilà, je tiens quand même à préciser.
Mais,
je me dis pas, chouette, il va y avoir une scène de viol.
Non,
ça va être super.
Non, c'était pas dans ce sens-là. C'était dans le sens où, effectivement, le fait que si tu t'attends à avoir l'histoire difficile du consentement et de l'apprentissage de ça, ben, t'es un peu déçu, parce que c'est vrai que tu passes à côté du sujet. Bah, alors que moi, je l'ai vraiment pris en mode, ok, c'est la découverte. de la période adolescente à adulte. Bah,
surtout qu'en fait, je trouve que, une fois de plus, je le redis, c'est pour moi la partie la plus intéressante du film. C'est celle, en tout cas, qui m'a le plus marqué. Et quand même, mention spéciale à cette jeune comédienne, enfin, même si tous les comédiens sont formidables, cette jeune comédienne qui littéralement porte le film, qui
incroyable.
Est incroyable, avec, qui arrive à faire passer beaucoup, beaucoup d'émotions avec très, très peu d'effets.
Non, mais les chapeau. Acteurs sont très, très bons.
Exactement. Non, il n'y a rien à dire là-dessus.
Et les décors et tout. Enfin, c'est hyper réaliste. Moi, j'adore.
Bon, décors, elle est allée choisir l'endroit le pire sur Terre.
En vrai, c'est incroyable. Moi, je trouve ça génial. Cette espèce de vision, là, de l'image, elle marche dans l'allée comme ça, tout seul avec son t-shirt vert.
Je sais pas où est-ce que ça se passe, en Grèce.
En Grèce, fluo, tout est dégueu par terre parce qu'en fait, il y a eu la fête la veille, elle marche, elle revient de sa soirée où.
Bah, c'est un, où plan, elle de West, c'est un plan de western. Hein.
Non, mais mais c'est vrai, tu vois, mais franchement, j'ai trop aimé. Enfin,
bravo à Molly Manning et puis bravo à toute l'équipe de Condor.
Exactement.
Mais je vais quand même dire pour ceux qui nous écoutent, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, si vous voulez voir, si le sujet vous intéresse, en tout cas le sujet de la fête, je défends corps et âme, même s'il a beaucoup de rétracteurs, Spring Breakers d'Arbre. Harmony Korine, qui reste pour moi le grand film sur l'ivresse de la fête et ce qu'elle amène de pire chez l'être humain.
Très très bon conseil.
J'ai cru qu'elle allait nous sortir Very Bad Trip ou Projet X.
Alors Very Bad Trip, j'ai vu que le premier il y a très longtemps.
Projet X, je ne l'ai pas vu.
Spring Breaker, c'est très bien.
Oui. Ouais. Quelques questions à propos de ce film avant de passer au film de Jérémy. Selon vous, Arthur ne triche pas, quel est le plus gros succès de Condor sorti en 2023? Question facile. Enfin, j'ai trouvé.
Pour la petite anecdote, j'ai failli choisir un film distribué par Condor aussi, s'ils nous écoutent. En tout cas, c'était Wendy de Brice Zetlin et j'adore ce film. Donc bravo à vous d'avoir distribué.
Réalisateur des Bêtes du Sud Sauvage. Le plus gros succès de Condor.
Il a fait 198 454 entrées en 2023.
Alors, en plus, je connais des gens chez Condor, donc là, je vais me faire taper dessus. Mais je l'ai vu en plus.
Je sais que tu l'as vu parce que je crois vraiment en plus.
On en avait parlé.
Je suis persuadé que oui. Mais bon.
Attends. Non, c'est pas 2023. First Cow, c'était avant.
Ouais, c'était avant, ouais.
Qui avait dépassé les 100 000. Et là, celui-ci.
Après,
c'est After Sun.
Exactement. Oui, voilà, After Sun. Et voilà, After Sun arrive en première position. Ensuite, c'est la conférence avec 81 000 entrées. Et puis, How to Have Sex. Est-ce que vous pouvez me dire quel film a gagné le prix d'un certain regard en 2022 et non pas 2023? Le film qui a précédé How to Have Sex, que j'ai adoré d'ailleurs. C'est Les Pires. Tu l'as vu?
Ah non, Les Pires, attends, c'est lequel déjà?
De Liz Akoka.
Ah non, je ne l'ai pas vu.
Okay. Très touchant, très fort. Si vous voulez pleurer, regardez ce film.
Et ben, je
c'est
note.
Très chouette. Non, vraiment, il est très chouette.
Mais oui, mais je note. Merci, Charlotte.
Ok, et ensuite, depuis 2018, voici les films qui ont eu donc un prix à un certain regard. Il y a Border, d'Ali Abbasi. La vie invincible de Ridis Gusmao, de Karim Einouz.
Ouais.
Les points desserrés de Kira Kovalenko. Les pires, donc, de Liz Akoka et de Roman Guéret. Et How to Have Sex, lequel a fait le plus d'entrées?
Border.
Non, Border, ça n'a pas fait tant d'entrées que ça.
Border a fait 91 000 entrées.
Ouais, tu vois. Dommage, un super film. Ouais. Sorti par Metropolitan. C'est pas le Karim Einouz, je pense pas. Je donne ma langue au chat.
Eh bien, c'est How to Have Sex.
Ah bah voilà.
Puisque Les Pires avait fait 53 000 entrées, Les Points Desserrés 23 000, La Vie Invincible de Ridis Gusmao 78 000 et enfin Border 91 000 qui est quand même le deuxième plus gros succès depuis 2018.
Mais ça montre quand même, puisque bon, c'est un virage, c'est plutôt un recentrement qui a opéré un certain regard depuis je crois 2 ans, justement de ne choisir plutôt que les premiers films, mais ça confirme, malheureusement ce que je disais.
Ouais, non, c'est
que les premiers films et quand bien même ils sont passés par Cannes, excusez-moi, le plus grand festival de cinéma du monde, même si c'est pas la catégorie reine,
et qu'ils ont gagné un prix aussi,
voilà, c'est pas la catégorie reine, c'est un certain regard, ça montre que ils ont encore un peu, mais alors une fois de plus,
une belle rampe de lancement, parce que pour Border,
bien sûr,
Border,
compétition juste après pour le prochain,
compétition juste après avec Les Nuits de Machad,
mais ça c'est autre chose, là c'est peut-être le système de fidélisation de Cannes de la part des auteurs qui découvrent, mais
je l'avais dit, je crois, dans un autre podcast Débris Film, ce travail est fondamental et vraiment bravo à tous les distributeurs qui ont le courage de sortir ces films-là, qu'ils aient un prix comme How to Have Sex ou qu'ils n'en aient pas, puisque j'adore le rappeler, mais La bataille de Solferino de Justine Triet,
oh là là.
Il n'avait pas fait,
le prendre celui-là aussi.
Il avait pas fait beaucoup d'entrées, non. Et aujourd'hui, hein, où est Justine Triet? Sur le toit du monde.
C'est clair. La bataille de Solferino, pour la petite anecdote.
Je crois qu'il fait même pas 20 000 entrées.
Chez LAC.
Ouais, chez LAC Distribution.
Premier film porté par Vincent McCain et Laetitia Doche avait réalisé 36 000 entrées.
Ce n'est pas le premier film porté par Vincent McCain.
Exactement, en parlant de Vincent McCain.
Le premier film de Justine Triet porté par Vincent McCain.
Allons-y sur Vincent McCain, puisque Jérémy a choisi Un monde sans femme qui avait fait 16 776 entrées en France, sorti en 2012. Alors, Jérémy, où est-ce que tu as découvert ce film? Qu'est-ce que tu en penses? Raconte-nous tout. Alors moi, il me hante, hein. Je pense grave, ah, mais, c'est horrible.
Pourtant, c'est quand même moins traumatisant.
C'est un peu Rushmore. Tu vois, mais en vrai, il y a un peu un... Alors, j'ai remarqué, il y a quand même des...
Il y a plein de choses à dire sur ce film. Il y a plein de choses. Bah, déjà, pour moi, Un monde sans femmes, c'est un film qui est extrêmement important. C'est le premier... Alors, c'est pas un long métrage, c'est un court métrage d'un réalisateur...
58 minutes.
Exactement. Alors, 58 minutes, mais qui comporte deux segments. Je vais détailler tout ça. C'est un auteur qui, aujourd'hui, est un peu plus reconnu, qui s'appelle Guillaume Braque, qui a fait d'autres fictions et d'autres documentaires. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'étais abonné à une revue qui parlait de pop culture, de cinéma, etc. Une revue hebdomadaire en son temps qui s'appelait Les Inrecuptibles. Et je me souviens très, très bien d'un article qui n'était pas forcément une critique cinéma, mais qui était le portrait de deux auteurs. Un réalisateur, Guillaume Braque, et une réalisatrice, Sophie Le Tourneur, et qui, en dressant leur portrait, parlait aussi du court-métrage. Car à l'époque, si je me souviens bien, les deux étaient sortis plus ou moins au même moment. Donc il y avait le court-métrage de Guillaume Braque, Un monde sans femme, et le court-métrage de Sophie Le Tourneur, Le marin masqué. Donc Sophie Le Tourneur, moi je connaissais déjà un petit peu, puisque j'avais vu et adoré son premier long-métrage, La vie orange, que je recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc j'étais allé en bon élève au MK2 Beaubourg découvrir ces courts-métrages.
MK2, c'est ton cinéma,
un peu. Ah, j'aime bien. Bah, malheureusement, en tout cas, des cinémas qui diffusent des courts-métrages à Paris, il n'y en avait pas beaucoup. Et donc j'étais allé découvrir Un monde sans femme. Et il se trouve qu'Un monde sans femme était précédé d'un autre court-métrage de Guillaume Braque qui s'appelle Le naufragé, et dans lequel il introduisait déjà le personnage principal de Sylvain, donc joué par Vincent McCain, un court-métrage, je crois, d'une durée de 10-15 minutes. Et je ne sais pas exactement comment il avait pensé les deux, mais dans Le naufragé, ça se passe dans la même ville qu'Un monde sans femme. Il y a le personnage de Sylvain. Donc bon, c'est un court-métrage très réussi, très drôle, qui se termine sur lui-même, qui n'appelle pas forcément de suite. Et quand Un monde sans femme démarre, alors là déjà, surprise, on retrouve Vincent McCain, on retrouve le lieu, sauf qu'on a déjà changé de saison, puisque Le naufragé, ça se passe en hiver, il y a la brume, c'est grisâtre, et Un monde sans femme, c'est l'été. Et en plus, moi déjà, j'arrivais en terrain conquis, puisque dans l'article des Inrecuptibles, j'entendais parler de Romère, j'entendais parler de Jacques Rosier, donc du côté d'Orouette, Comte d'été. Alors déjà, moi, c'est un cinéma que j'aime énormément. Et quand je vois le film démarrer, il y a trois choses qui se passent, enfin non, deux plutôt. Un, la sensation d'être dans un pays que je connais. C'est ce pays, je pense qu'il nous parle à tous, c'est le pays des vacances, c'est le pays de l'été, le pays du bord de mer. Je sais pas où ça se passe, peut-être en Bretagne, mais il y a quelque chose...
Pour moi, il fait quand même un peu froid. Je sais pas comment dire, il fait pas non plus super
mais
chaud. En fait,
ceci dit, je crois que la plage, c'est des galets, donc c'est peut-être pas la Bretagne. Mais il y a un parfum, en tout cas, qu'on connaît.
C'est dans le nord de la France.
Exact. Ah, c'est dans le nord de la France.
Un village côtier dans le nord.
Et ben voilà. Bon, désolé pour la Bretagne. Mais il y a ce parfum des vacances d'été, de la mer, de la légèreté qu'on connaît. Et ça, c'est la première chose. Et tout de suite, je me suis senti bien dans ce film. Il y a comme s'il avait un parfum, une odeur qui tout de suite me faisait sentir bien. Et la deuxième chose, c'est pour moi ces deux comédiens principaux.
Laure
Calamy et Vincent McCain, que personne ne connaissait, qui arrivaient là comme ça de nulle part. Alors Vincent McCain et Laure Calamy, ils étaient connus des gens qui avaient eu la chance de voir les pièces de Vincent McCain, parce qu'il était déjà metteur en scène reconnu au théâtre. Mais moi, je les avais jamais vus, et tout de suite, j'ai été totalement subjugué et en même temps désarmé
par la douceur et la naïveté du personnage de Vincent Macaigne et le personnage de Patricia, je crois, qui est joué par Laure Calamy, qui est d'une drôlerie, qui arrive là avec en plus sa générosité, son aplomb, son côté vraiment débordant à tous les niveaux. Moi, c'est quelque chose, tout de suite, je me suis dit, je veux pas faire celui qui avait vu avant tout le monde, mais je me suis tout de suite dit, je pense que il y a devant moi deux grands comédiens. Et aussi mention particulière pour celle qui joue sa fille, Constance Rousseau, qu'on voit moins ces derniers temps, c'est bien dommage, une comédienne qui est très très touchante aussi dans le film et qu'on avait déjà vu avant dans le film, je crois, Tout est pardonné de Mia Hansen-Love.
Non mais c'est ouf, c'est vrai que ce que tu racontes, moi en fait ce film j'ai dû le digérer, parce que quand j'en suis sortie, je sais pas comment expliquer, j'étais là, ok, enfin... Tu vois, les couleurs sont pas ouf. Enfin, il y a pas de... T'as vraiment l'impression que le gars, il a fait un court-métrage presque étudiant, tu vois, un truc un peu...
Non, mais non.
À la base, moi, quand je l'ai vu, c'est ce que ça... Tu vois, c'est... Voilà. Et une fois que je l'ai digéré, en fait, il m'a hanté. J'y pense grave souvent, même encore maintenant. Je me dis, mais c'est ouf. Et c'est vrai que tous les sentiments, en fait, qui nous traversent pendant ce film-là, c'est-à-dire tant... Je trouve la perdition, finalement, de Laure Calamy, qui est une mère... heureuse en soi, enfin je pense qu'elle est pas, enfin elle est malheureuse dans sentimentalement et dans sa vie, mais qui essaye de surfer sur la vague du bonheur et d'essayer de rigoler de machin, mais qui a l'air complètement un peu perdu, perché.
Bah, ils le sont tous un petit peu, mais le titre est quand même, le titre est très beau, puisque alors évidemment on peut être du côté des deux personnages, ça serait drôle de poser la question comment on s'identifie en fonction, mais le titre Un monde sans femme, c'est pour le personnage de Sylvain et aussi pour l'autre personnage qui joue le policier, c'est la promesse finalement de pouvoir s'extraire un petit peu de leur quotidien morose et c'est très touchant.
C'est
ouf, hein. Et notamment cette scène qui pour moi est la plus belle scène du film, je crois, même si elle dure 30 secondes, c'est ce moment où Sylvain court avec Constance Rousseau et Laure Calamy dans l'eau, ils s'amusent, il y a comme un jeu d'eau, un jeu d'enfant avec une musique, je crois, à la guitare sèche, quelque chose, voilà, un instant léger, un instant fugace, un instant qui a déjà disparu, et pour Sylvain c'est peut-être la plus belle journée de son année, alors que elle, bah, c'est juste les vacances, elle s'amuse,
Et qu'est-ce qui dit tout dans le silence, en fait ? Ça,
ouais,
je trouve
bien
ça tellement fort. C'est-à-dire que on ressent, mais
il y a de la honte et de la gêne à la fois.
Non, mais c'est ouf.
Dans quasiment toutes les séquences, quand il joue avec de l'alcool avant de partir. Avant de partir en boîte de nuit, quand il commence à se confier et qu'elle lui dit cette phrase, je crois cette phrase terrible. Ah, moi je t'imagine bien comme père, tu serais un super père. Alors que lui il espère qu'une chose, c'est d'essayer de l'embrasser. Il se rapproche, il lui touche la main et c'est pas une étreinte, mais cet effleurement de main qui dure peut-être une demi-seconde,
ouais.
Et après elle l'enlève, mais en même temps on sent qu'elle est touchée par lui, elle aura peut-être envie, mais elle préfère peut-être l'autre. C'est la circulation des sentiments,
tu vois, ouais, pardonne maman, elle est attirée par les mauvaises personnes, mais cette fin par contre, Jérémy, mais quelle horreur. Non,
pourquoi, quelle horreur?
Tu vois, moi en vrai je m'y attends, enfin c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce basculement qu'on voit, enfin, de base il est plus avec la mère, mais en même temps la fille, elle est en retrait, mais elle est là, tu vois. Et donc, du coup, tu te questionnes, tu te dis qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir quelque chose et tout. Quand ça se passe vraiment, tu te dis non, parce que pour moi, il y a une espèce de complexe d'Œdipe de la fille qui, en fait, a envie d'un père et qui va vers...
Oui, ah, tu l'as vu comme ça, toi?
Ah, moi, je l'ai grave vu comme
ouais,
ça.
Ouais, mais en même temps, là où c'est peut-être un peu, comment dire, plus retort que ça, c'est qu'il ne se comporte pas du tout comme un père, lui. Lui, finalement, c'est un grand enfant. Donc, elle est vraiment touchée par lui. Et pour moi, elle ne va pas forcément chercher la présence du père. Parce que, est-ce qu'il représente vraiment l'archétype du père protecteur dans...
Non, mais après, pour moi, elle avait besoin d'une présence masculine en soi, tu vois. Et,
oui, c'est
et
vrai.
Que, tu vois, elle pleure, il lui fait un câlin, ça lui fait du bien. Et du coup, elle part un peu dans son truc de bon, bah, du coup, on va dormir ensemble. Et enfin, c'est horrible. Cette scène, elle me... Ah, et en même temps, tu vois, tu dis, bon, bah, t'es dans le truc, mais c'est vrai que cette puissance qu'a Vincent McKenna dans le film. Après, Laure Calamy aussi, mais Laure Calamy, elle va être beaucoup plus être dans l'expansif. Enfin, elle va.
Ah bah parler, elle a un rôle moins facilement t'identifier. Parce que de toute façon, elle a l'air d'être un peu plus sereine et elle sait un peu plus. Enfin, sa vie, d'une certaine manière, elle l'a déjà un peu vécue, puisqu'elle a sa fille, elle est divorcée, elle n'a pas de problème pour rencontrer d'autres personnes, pour séduire des hommes. Enfin, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ça montre quand même un personnage féminin qui clairement fait ce qu'elle veut. À un moment, elle dit oui, à un moment, elle dit non. Voilà, c'est pas le personnage qui est contraint et forcé, quoi. Ça.
Ouais, mais après, elle respire aussi un peu l'imbécilité, tu vois, mais l'imbécilité. Heureuse et en même temps elle souffre et elle aussi on le ressent qu'elle souffre aussi tu vois à son échelle quoi.
Peut-être moins imbécile qu'elle pourrait,
oui,
qu'elle pourrait laisser transparaître.
Mais tu vois il y a ce côté là un peu souffrance mais qu'elle aime bien aussi paraître un peu pour l'imbécile d'une certaine manière mais c'est vrai que le jeu d'acteur fait beaucoup. Effectivement on se sent en vacances sur ça je suis d'accord parce qu'il y a à la fois le calme, l'excitation et en plus je trouve qu'on change vachement de perso dans le sens où effectivement parfois on est avec Vincent et on va être là, on va être triste avec lui. Et en même temps, moi vraiment, c'est horrible, mais c'est une peine. J'ai vraiment pitié, quoi. C'est affreux. Je me dis, putain, mais c'est horrible. Et c'est même pas, je suis heureuse pour lui qu'il soit heureux, c'est que ça me fait de la peine, quoi. Ouais,
lui dans sa maison avec sa Wii en train de jouer au tennis.
Non, mais oui, trop mignon, quoi. Trop
fort. Que tu vois aussi déjà dans le naufragé. C'est en fait ce que j'aime beaucoup dans ce film et dans le cinéma de Guillaume Braque, je pense que c'est un conseil, même si je ne suis personne pour le donner, quand même, un conseil que je donnerais aux jeunes cinéastes, hommes et femmes, qui veulent faire des films dans cette veine-là, donc dans une veine, on va dire, assez naturaliste, faites simple. Regardez ce film et regardez la simplicité du dispositif, de la situation, des dialogues. Il y a une idée dans chaque scène, il n'y en a pas mille, ça ne va pas dans tous les sens. Et finalement, ça touche vraiment au cœur de ce que sont les émotions et à quel point la gêne, la honte peuvent nous imprégner parfois.
C'est terrible, non ?
Je trouve que c'est pour moi ce jour-là vraiment un cinéaste aîné et je suis très heureux puisqu'il ne m'a jamais déçu par la suite.
Et toi, Jérémy, c'était la première fois que tu voyais un court moyen-métrage de Guillaume Braque, du coup
C'était le premier, donc.
Et ce que je trouve fou, c'est qu'en vrai, d'une certaine manière, il y a quand même des sujets communs qui s'entrechoquent entre Rushmore, How to Have Sex et Un monde sans femmes. Je sais pas comment expliquer.
Les adolescents qui ne veulent pas grandir ou les adultes qui veulent rester adolescents.
C'est marrant, alors qu'on a pris que 3 films à moins de 100 000 entrées sans se concerter, enfin, c'est rigolo. Petite question sur Un monde sans femmes. Arthur ne l'avait pas vu, hein. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup parlé.
Toujours le mauvais élève.
Exactement. Le film est donc sorti en 2012. Sans tricher, quel film était top 1 en 2012 ?
C'est pas Le Bon Dieu ?
Non.
Avengers ?
Non.
Non, attends.
Facile.
Non. Attends, Le Bon Dieu, c'était.
Ah, bah c'est. Non,
6 997 421 entrées.
Attends, Le Bon Dieu, c'est quoi ? C'est 2011 alors ?
6 millions ?
6 millions. Enfin, presque 7, parce que 6 millions...
Ah, mais si, je sais. C'est Moi, moche et méchant 2.
Non.
Oh, mince.
C'est Skyfall.
Ah, mais oui.
Et oui, oui, je comptais sur vous, là, quand même. Suivi de L'Âge de Glace, qui avait fait 4 600 000 entrées à peu près, et Le Marsupilami, qui avait fait 5 millions en dessous. Quel est pour vous, quel est le plus gros succès, attention, pas forcément premier rôle, de Vincent McCain ?
Le sens de la fête.
Absolument.
Ouais.
Exactement.
Bravo.
Facile, rapide, efficace.
Ouais.
3 millions d'entrées. Et ensuite, c'est Les Innocentes qui avait fait 702 000 entrées. Et sur les 37 films, avec Laure Calamy, parce que Laure Calamy a fait 37
films. Déjà 37 films.
37 films et 38, parce que là, il y en a en post-prod, mais bon, actuellement 37. Combien n'ont pas fait 100 000 entrées C'est ça. Sont en dessous de la barrière des 100 000.
Sont en dessous sur 37 ?
Sur 37.
Oh, je dirais 17.
Combien, tu dis, toi, Arthur ?
Ouais, la moitié aussi. 15.
14.
Ah bah on n'était pas trop.
Il y a par exemple Garçon Chiffon, Ava ou encore La Dernière Folie de Claire Darling. Et enfin.
Laure Calamy, elle a vraiment explosé avec
Antoinette dans les Cévennes.
Antoinette dans les Cévennes. 10%,
vous rigolez ou quoi ? C'était avant 10%.
Ah oui, non, mais je parle au cinéma.
Au cinéma, ouais. Okay.
Mais j'ai découvert 10% finalement assez tard. Donc,
ah oui, c'est pour ça.
Mais c'est pour ça que quand tout le monde disait il y a une actrice incroyable qui s'appelle Laure Calamy, je vous n'avez jamais vu Un monde sans femmes.
Je la connais, je l'avais vu venir.
Exactement.
Et combien sur les 37 films de Laure Calamy ont passé le million ?
Ouais, je pense pas tant que ça. Hein.
Non, moi non plus.
Bon, je dirais 3.
Et toi, tu dis combien ?
Oui, je pense.
je sais pas, je dirais 0.
2.
Ah,
Sous les jupes des filles, qui a fait 1 390 000 entrées, ouais. Et Un plan parfait, qui a fait 1 203 000 entrées.
Elle était dans Un plan parfait. Oh, ouais.
Et enfin, un peu pour conclure, des trois films que nous avons vus, puisqu'au début, nous avons introduit avec la presse, quel film a la meilleure note presse sur Allociné des trois films?
Attends, de nous trois, moi, j'ai Un monde sans femme.
Ok, Arthur.
Je dirais Un monde sans femme aussi. Parce que moi, je crois qu'il est trop ancien, il n'y a pas de note presse sur Allociné.
Ouais, Rushmore et How to Have Sex, dans mes souvenirs, la presse, il y avait, c'était pas non plus divisé à 50-50, mais je crois qu'il y avait quand même des reviews négatifs. Je dirais un tiers de tiers.
C'est ça. C'est Un monde sans femme qui a fait 3,8
seulement
presse Allociné. Oui. Scandale.
Ce n'est pas possible.
Et non, Rushmore et How to Have Sex avaient 3,6 tous les deux.
On n'aime plus la simplicité des sentiments en France. On est plutôt romantique. Ça ne va plus du tout. Le cinéma de Guillaume Braque est un cinéma qui fait du bien au cœur. Voilà.
En tout cas, ça a été un sujet compliqué parce que moi j'avais beaucoup de films en tout cas que je voulais prendre. Je vais parler de Wendy tout à l'heure. J'avais La fille du 14 juillet.
Mais il y en a plein. Ah, La fille du 14 juillet.
À mes collègues, je me suis soucié de la disponibilité des films et en tout cas de leur facilité d'accès, ce qui n'a pas été le cas des autres.
J'ai pas eu de souci d'avoir Un monde sans femme.
Tu sais que La fille du 14 juillet, j'aurais adoré en parler parce que Antonin Peretchatko, il est arrivé justement dans toute cette vague,
cette vague de
avec Guillaume Braque, Sophie Le Tourneur et même Valérie Donzelli à l'époque qui n'était pas encore extrêmement connue. Je crois que la gare est déclaré venait à peine de sortir. Donc
j'adore ce film. On peut refaire un quart d'heure sur La fille du 14 juillet.
Sur et sur La loi de la jungle aussi.
Mais il a fait plus de 100 000 entrées.
On refera un podcast pour ça. Mais c'est vrai, tant de films à moins de 100 000 entrées qui sont intéressants, qui sont des petites pépites cachées. Et on est là aussi pour vous les faire découvrir et en discuter. En tout cas, un grand merci à Arthur et à Jérémy pour leur présence. Et un grand merci à vous pour votre écoute.
Merci Charlotte.
Et de rien. Et puis à très vite sur Débriefing.